Alors, j'ai pas encore souhaité bonne année à tout le monde parce que j'étais pas là la semaine dernière. J'ai encore un petit reste de virus, je sais pas trop ce que c'est. Mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux. J'ai récupéré à peu près ma voix. Pas tout à fait. J'ai quand même réussi à chanter, à crier, donc c'est qu'il y a une force surnaturelle qui est là, hein, voilà. Je sais pas ce que ça va donner à la fin du message, mais vous pouvez prier pour ça. Donc, on a pu faire notre entrée, heureusement. Mais dimanche, on n'était pas sûr de pouvoir le faire avec Lilia. Et merci pour tous ceux qui ont prié. On s'est vraiment senti portés. Alors, j'espère que vous avez bien démarré cette année. C'est une année un peu spéciale, apparemment, d'après tout ce qu'on entend au niveau des paroles prophétiques. Et donc, comme on l'a déjà dit, le mot d'ordre, c'est au-delà. C'est une expression qui est revenue assez régulièrement. Et on va continuer à creuser dans ce sens. Alors j'ai déjà fait un message sur la grâce et j'ai l'impression que le Seigneur il me pousse à faire un petit peu la suite. Donc si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez faire le rattrapage. Merci pour tous ceux qui enregistrent les cultes. Parce que c'est vraiment c'est super de se dire que on parle pour au-delà de ce qu'on est en train de faire. On parle pour maintenant et pour plus tard, pour ceux qui pourront les écouter plus tard. Et donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu dans Matthieu 5. Donc ça va être beaucoup autour de Matthieu 5. Et parce qu'en fait, un matin, je me suis réveillée avec, dans ma tête, un verset qui tournait. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et en fait, ça résume un morceau de Matthieu 5 qu'on va travailler. Et... j'avoue que quand j'ai lu Matthieu 5, je me suis dit, oh là là, les béatitudes, c'est quand même un chapitre qui est compliqué. J'ai découvert après que c'était un des chapitres qui était les plus commentés par tous les docteurs de la loi, etc., tous les enseignants de la parole, etc. Donc je me sens un petit peu toute petite là pour travailler là-dessus, mais je pense que le Seigneur, il m'a donné un angle qui est peut-être un petit peu original. Donc, en tout cas, c'est un chapitre qui nous challenge, hein, puisqu'à la fin, c'est la conclusion du chapitre, c'est « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Verset 48. Donc voilà le programme pour cette nouvelle année, vous êtes d'accord? Mais je crois vraiment que Dieu veut continuer à nous former, à nous instruire. Et en fait, ça reste un petit peu le fil rouge, j'ai l'impression, de l'année dernière. Donc je ne suis pas une enseignante d'école biblique, donc je ne vais pas vous faire un commentaire exhaustif, je ne vais pas prendre un verset après l'autre. J'ai vu que le Seigneur il voulait que je fasse des parties, et en fait on va le prendre à l'envers, ça va être intéressant. On va commencer par la fin. Donc, bien sûr, il y a plusieurs interprétations qui ont été données sur ce passage, hein, sur ce chapitre, depuis Calvin, quoi. Enfin, je veux dire, ça remonte, hein. Donc, comme dit, maintenant que je vous ai dit que ce que je vais pas faire, on va pouvoir aller travailler sur ce que le Seigneur, j'ai l'impression qu'il m'a dit, hein. Donc, bien sûr, je vous le soumets et vous êtes vous-même sensible au Saint-Esprit et vous prenez ce qui est bon. En tout cas, c'est défiant, parce que c'est un passage qui est très profond, et ça nous parle à nous encore aujourd'hui, alors que Jésus il s'adressait à ses disciples, bien sûr, il s'adressait à une foule qui était assez disparate, qui venait un peu de plusieurs endroits différents. Mais ça, c'est la force de la parole, hein, c'est qu'elle nous parle à travers les siècles, et elle nous parle en fait de quelque chose qui est éternel, le royaume de Dieu. Donc ça, c'est assez extraordinaire d'un point de vue totalement concret, littéraire, on va dire. Hein. C'est la force, la puissance qui se dégage de cette parole qui a été donnée à un temps donné, mais qui, en fait, est éternelle. Donc Jésus, dans Matthieu 5, il nous explique les principes de son royaume. Et, et on a l'impression que c'est un peu exigeant, même très exigeant. Je ne sais pas si voilà, vous avez ça par cœur dans votre tête, mais vous avez certainement quelques petits souvenirs. Et donc, ce qui m'a interpellée, c'est en fait cette bonté de Dieu, car il fait lever son soleil sur les méchants, verset 45, et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et je pense que c'est surtout cet angle-là, cette grâce extraordinaire du Père qui est importante ce matin, et on l'a déjà, on a ressenti sa présence ce matin dans la louange, dans la prière. Et en fait, ce qu'on vit entre nous, j'ai l'impression vraiment, il nous pousse à le vivre pour l'extérieur aussi. Et il appelle son Église à manifester son amour et sa grâce. Et donc, le thème de ce message, c'est aimer comme Jésus, l'amour sacrificiel. Et justement, je me suis posé la question, c'est quoi cet amour sacrificiel ? Et parce que Jésus, il a déjà tout fait, on n'a pas besoin de refaire son sacrifice. On l'a prié à la Sainte Cène, on n'a pas besoin de refaire l'œuvre de Jésus. Il l'a faite, tout est accompli. Mais il nous demande de suivre son exemple et d'être parfait comme notre Père dans le ciel est parfait. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en gros, hein ? Donc c'est un thème qui me travaille déjà depuis un moment, et j'avoue que j'ai pas trop voulu avoir la réponse tout de suite, parce que je me suis dit ça va être au-delà de ce que je peux faire moi-même. Mais en fait c'est ça, c'est au-delà de nous, hein. C'est totalement au-delà de ce qu'on peut créer par nos propres forces. En même temps c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a besoin de Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour ses amis? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire communier aux souffrances de Christ? On avait eu un message là-dessus, je crois que c'était Marie-Christine qui avait parlé de ça un jour. En tout cas, tu avais évoqué le sujet. Et aller jusqu'où, puisque tout est accompli, qu'est-ce que je peux faire, moi, en plus? Alors le but, c'est pas de souffrir, même si ça fait partie du chemin, hein, bien sûr. Le but, c'est pas de s'auto-flageller dans une sorte de dolorisme un petit peu sadique, hein. C'est pas ça, heureusement. Mais aimer comme Jésus. Et Jésus, il se donne. Et du coup, ça nous demande une proximité avec Dieu qui est extrême, parce que le but, c'est pas juste de se dire, de faire des choses qu'on penserait être justes ou qu'on penserait être bien, parce que ça fait très chrétien. C'est s'enlever justement les images qu'on a d'un christianisme qui est justement dans le dolorisme, dans le sacrifice de soi, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on a ces images-là de martyrs, etc. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais je pense que c'est vraiment une image pervertie de ce que ça veut dire, se donner, donner sa vie. Même si, voilà, dans les histoires de martyrs, ils ont vu, il y en a beaucoup qui ont vu Jésus, etc. Donc je remets pas en question leur vie, mais je remets en question ce qu'on en a fait. Un peu comme des idoles qu'on a mis comme ça, des idoles de vie chrétienne qui sont inatteignables et on n'a pas envie de vivre ça. Enfin, je sais pas vous, mais bref, je veux pas rentrer dans les détails gore, quoi. Hein, mais voilà, donc c'est quand même donner sa vie, oui. Mais en suivant l'esprit. Vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, ça peut paraître effrayant, mais ça demande un chemin de confiance envers Dieu. Jésus nous dit quand même qu'on va subir des persécutions, qu'on va subir des épreuves, ça c'est sûr, mais qu'il est là, il est avec nous, il est au milieu de tout ça avec nous. Et en fait, ce que je vois surtout, et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que ce qui va mourir, c'est la chair, et ça on le sait, hein. Crucifier la chair, on a besoin de crucifier cette chair qui nous tire vers le bas. Mais une fois que la chair elle est morte, elle souffre plus. Donc on n'est pas appelé à souffrir en fait. Je veux dire, parfois la chair elle prend un peu de temps à être crucifiée, donc ça c'est douloureux. Mais une fois que c'est fait, ben, y a plus de souffrance normalement. Une fois que la chair est morte, elle ne souffre plus, c'est la bonne nouvelle. Donc le but c'est pas de crucifier la chair pour se faire du mal, d'accord ? Mais en fait, c'est pour expérimenter un principe de justice qui est puissant. Donc on va reprendre le chapitre 5 de Matthieu et voir comment on peut suivre l'exemple de Jésus. Parce que Jésus, quand il est allé à la croix, et c'est notre modèle, hein, il a crucifié la chair. Il a crucifié notre chair. Et nous, on peut aussi se revendiquer de cette œuvre-là pour notre propre vie. Mais d'un point de vue humain, c'était la pire des ignominies, la pire des humiliations. Et en fait, d'un point de vue du royaume, c'était la victoire. La victoire sur les ténèbres, la victoire sur la mort, sur le péché. Donc en fait, on a toujours cette double vision des choses. D'un point de vue humain, ça paraît la pire des choses, la faiblesse totale, la mort. Et en fait, c'est l'acte le plus puissant du royaume qui a jamais existé. Donc, voilà, c'est ça qui doit nous tirer vers le haut, en fait. Donc, on va commencer par le chapitre 38, le chapitre 5, verset 38. Donc, première partie, en fait, c'est, j'ai divisé ça du verset 38 au verset 48. Et c'est un petit peu ma première partie. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par la fin. On commence par la fin parce qu'en fait, ici, Jésus, il reprend des passages de la Torah, de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est juste. Et c'est notre justice humaine qui est encore fondée sur ce principe de réciprocité. Quand il y a eu un dommage, il y a une réparation. D'accord ? Donc, c'est juste, c'est totalement normal de demander une réparation, et le œil pour œil, dent pour dent, c'était aussi pas aller au-delà de l'œil si t'as été endommagé d'un œil, pas aller au-delà d'une dent si t'as été endommagé d'une dent. Donc c'était un principe qui était nécessaire, utile, et qui est encore utile aujourd'hui dans notre justice humaine, c'est ce principe de réparation du dommage. Mais Jésus nous dit: moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors ça aussi, ça a été longuement commenté, souvent. Qu'est-ce que ça veut dire tendre l'autre joue? Est-ce que c'est se faire abuser encore une fois? Est-ce que c'est pas être faible? C'est en tout cas une position de vulnérabilité. T'as été frappé, c'est pas très agréable. Tu tends l'autre joue, tu te dis, tu peux de nouveau être frappé. C'est presque contre-intuitif, on est d'accord. On n'a pas envie. Bon, donc c'est quelque chose qui est en tout cas un acte contraire à la réflexion humaine. Donc à partir de là, c'est intéressant, parce qu'on sait que toutes les lois du royaume sont un peu en contradiction avec ce qu'on ferait de prime abord nous-mêmes, dans notre propre intérêt. Donc en fait, c'est être prêt à recommencer à être en relation avec une personne qui nous a fait du mal, risquer de nouveau de se faire du mal, de se faire frapper. Mais en fait, c'est pas simplement être là en position de faiblesse, c'est faire un acte fou, on pourrait dire, insensé, qui a pour objectif de faire quoi? Juste de se faire frapper à nouveau? Non, parce que là, quand le Seigneur il enseigne ça à ses disciples, c'est qu'il y a un objectif. Il y a un objectif de se comporter comme un disciple et donc de faire avancer le royaume de Dieu. Forcément. Voilà. Forcément. Si on tend la joue droite alors qu'on vient de se faire frapper, en face, ils seront quand même un peu étonnés. C'est quoi cette manière d'agir? Il n'y a jamais personne qui agit de cette manière-là. Il n'y a qu'un disciple de Jésus qui peut agir comme ça. Donc forcément, ça étonne. Forcément, ça interpelle. Et donc, forcément, il va y avoir une réaction. Et c'est une opportunité pour apporter le royaume, pour apporter la repentance, pour apporter une prise de conscience. Je le vois un petit peu comme ça. Et c'est pareil pour... Pardon. Pour la suite. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Et on n'a pas envie. Quand quelqu'un nous force à faire quelque chose, la chose la plus normale, c'est de dire c'est bon, tu m'as déjà forcé à faire ça, maintenant laisse-moi tranquille. Hein. Et en fait là, le Seigneur il nous demande de faire encore plus, d'aller plus loin que ce qu'on aurait envie de faire et ce qu'on n'a surtout pas envie de faire. Et une petite anecdote de cette semaine, un élève m'a forcé à faire un mille avec lui. Je ne vais pas vous donner les détails, mais bon, les élèves, ils savent faire ça, hein, mais là, c'était particulier cette semaine, quelque chose d'inhabituel. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je me suis mis dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Parce que je ne suis quand même pas une débutante, mais alors là, je me suis fait piéger. Et en fait, non, c'était le Seigneur quoi, qui a voulu quand même me faire une petite mise en pratique pour que je vous amène ça ce matin. Et en fait, voilà, j'avais le choix. Il m'avait forcé à faire un mille. Bon, le mille romain, c'est 1,5 km. Moi, j'avais l'impression que c'était 10 000. Hein. Là, c'était voilà, c'était très désagréable, mais je sentais à l'intérieur de moi, je priais en langue, et je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je lâche pas. J'ai l'impression qu'il fallait pas que je lâche. Et en fait, ce que j'ai compris après, c'est que voilà, maintenant, on va faire 2000 et on va aller jusqu'au bout. On va prendre ce temps où il m'a forcé à faire un certain nombre de kilomètres dans son fonctionnement à lui, alors que j'aurais pas du tout voulu, j'aurais pas aimé. Eh ben, on va aller jusqu'au bout, mais pour que ça change. Et que ça reste pas comme ça, et que moi, je lui apprenne la façon de marcher. Parce que, ok, on fait un kilomètre à sa façon à lui, mais on va faire un kilomètre cinq à ma façon à moi. Et là, alors, c'est la façon du royaume, bien sûr, hein, c'est pas la mienne personnellement. C'est-à-dire que le but, ça va être maintenant de changer, d'avoir un impact spirituel sur ce comportement-là en particulier. Et il y a vraiment besoin, je ne vous donne pas les détails, mais là, c'est un combat spirituel pour cette famille, en fait. Ce n'est même pas juste pour lui, c'est pour la famille. Il y en a qui savent de quoi je parle. Donc, je prie que ce soit à salut et que l'entretien que je vais avoir avec la famille ait vraiment un impact, qui est un vrai changement, parce que le but, c'est vraiment d'écraser les ténèbres sous nos pieds en même temps qu'on marche. Hein. Et je peux vous dire que je suis bien motivée. Donc, sur le même principe, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, ce qui est logique. Mais, elle est mais de Jésus, il y a tout un... Il y a des enseignements sur les mais dans la Bible. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, toujours l'esprit contraire. Toujours l'esprit contraire. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est le but. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et les fils qui ressemblent à leur Père, ils ont les actions du Père sur terre, c'est-à-dire des actions de rédemption, des actions de restauration. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire avancer le royaume sur cette terre comme il est dans le ciel. Car notre Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il est un bon papa, même pour ceux qui ne le connaissent pas, même pour ceux qui sont hostiles. Donc c'est notre modèle. Et le soleil, ça fait penser au soleil de justice aussi. La justice du royaume, elle est complètement différente de notre justice humaine. Notre justice humaine, elle va jusqu'à un certain point, et la justice du royaume, elle va au-delà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de justice restaurative. J'ai l'impression que c'est des chrétiens qui ont fait ça, je pense, parce que vraiment ça ressemble à une réparation qui va au-delà de simplement une simple justice. Mais la justice du royaume, elle est rédemptive. Elle va encore au-delà de la restauration. Il y a une rédemption qui peut être encore plus forte. Et la pluie, il fait pleuvoir. On peut parler de pluie de bénédiction, parce que bien sûr, toute la création, elle nous est offerte comme un cadeau du Créateur, alors qu'on ne le mérite absolument pas. Mais c'est quelque chose qui a été fait pour nous. N'est-ce pas, Benjamin? Une création qui est extraordinaire, qui est admirable, qu'on peut admirer, qui est merveilleuse, et elle est pour tout le monde. Tout le monde peut s'en servir, même si on ne connaît pas le Père. Donc nous sommes appelés à lui ressembler, comme un fils ou une fille peut ressembler à son Père. Verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » On est appelé à faire des choses extraordinaires, à aller au-delà du naturel. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est notre Père céleste qui nous donne notre identité spirituelle, notre identité naturelle aussi. Donc nous sommes appelés à l'imiter, à lui ressembler de plus en plus. Vous êtes prêts pour la deuxième partie? Dans la deuxième partie, alors cette fois-ci, on va aller du verset 20 au verset 37, donc. On va à rebours. Donc ça commence au verset 20. « Car car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc les scribes et les pharisiens étaient pourtant l'élite, connaissaient la Torah, ils connaissaient les lois de Dieu, et ils étaient là pour être des garants aussi pour le peuple, pour faire les sacrifices, etc. Donc, on doit aller au-delà de l'élite. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes dans une formation d'élite, là. Je ne sais pas si vous avez cette impression aussi. Mais je pense que le Seigneur, il prend vraiment notre Église à cœur et au sérieux. Ça, je l'ai déjà dit, je pense vraiment que c'est vrai. Et qui nous... Voilà, qui nous... Il sait qu'on peut entendre des choses difficiles comme ça, où il nous challenge, où il nous demande d'aller au-delà, d'aller plus loin. Et il sait qu'on peut le faire. Parce que l'élément déterminant ici, dans ce passage-là, ça va être la transformation du cœur. Et il sait qu'on est assez humble pour écouter et pour obéir, et donc qu'on peut être transformé. Donc l'élément déterminant, c'est accomplir donc cette justice, hein, on parle toujours de la justice, par la compassion, par l'amour. Parce que les scribes et les pharisiens, à un moment donné, ben justement, ils ont perdu cet amour, ils restent dans le légalisme, en tout cas ceux que Jésus confronte pendant sa vie, il n'est pas tendre avec eux, parce qu'ils utilisent la loi, mais ils enlèvent la compassion qui est le moteur de la loi. Et c'est notre moteur à nous aussi. Vous avez entendu qu'il a été dit, pardon, aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Qui ne se met pas en colère contre ses frères? Voilà. Mais en fait, ce que je vois dans ce passage, et c'est pareil pour la suite, quand il parle de réconciliation avant de donner l'offrande, de se mettre en accord avec son adversaire avant que la justice des hommes n'intervienne, de se mettre en règle au niveau de ses dettes, de rester dans la fidélité aussi, hein, verset 27, c'est sur l'adultère, etc. Tous ces principes, en fait, sont des principes de combat spirituel. C'est-à-dire... On voit, il le dit au verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Verset 30, « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. » Donc, c'est des images assez saisissantes et évidemment métaphoriques pour appeler à utiliser tous les moyens nécessaires pour rester dans cette pureté et ne pas succomber à la tentation. Et on voit que notre monde autour de nous, il est rempli de tentations, rempli d'impuretés. Encore cette semaine, j'ai confronté des choses avec ma stagiaire. Elle doit lire des choses, mais c'est affreux. On arrive vraiment au summum. Parce que moi, quand j'étais déjà à la fac de lettres, c'était pas très très reluisant. Mais alors là, je pense qu'on arrive vraiment au plus bas que terre, quoi. Et je vous donne pas les détails parce que c'est vraiment... tellement, c'est la pourriture, quoi. Et donc, dans l'impureté. Et on donne ça à des étudiantes de 20 ans. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour gérer donc notre colère, si on ne gère pas notre colère, on est dans un esprit de meurtre. Si on... Et le but, c'est donc être dans l'esprit de douceur et d'humilité par opposition. Hein, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous réconcilier. Donc ça demande une certaine humilité. Pour tout ce qui est donc de l'impureté, gestion de la convoitise, on voit que l'antidote, c'est la fidélité, la bonté par opposition. Marcher dans l'esprit contraire. Hein, chaque fois, il y a cet esprit contraire. Pareil, quand le Seigneur nous demande de ne pas jurer, de ne pas promettre... ne pas dire des paroles en l'air, de ne pas être dans la légèreté avec nos paroles, puisqu'on sait que ce qui sort de la bouche, c'est ça qui peut souiller, hein, c'est que ben, la parole, elle a une action, elle a une force, une puissance. Donc l'esprit contraire, c'est de ne rien ajouter, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on peut rajouter, ben, ça vient en plus et c'est mauvais. Savoir dire non aussi, c'est important. Toutes les petites, toutes les instructions que Jésus donne ici, ce sont des résolutions du cœur. On prend ces résolutions pour se tenir dans la droiture, en fait, c'est un combat spirituel contre les esprits méchants, contre les esprits mauvais qui veulent venir contre nous. La colère, on doit la gérer selon Dieu pour pas être dans l'esprit de meurtre. L'esprit de meurtre, c'est un esprit. La convoitise, c'est pareil. Ce sont des tentations qui viennent, qui nous agressent. C'est quelque chose qui nous pollue. Donc, on a besoin de marcher dans l'opposition, dans l'esprit contraire, et garder donc son âme et son cœur en Dieu pour ne pas être souillé ou se nettoyer, hein, prendre la douche spirituelle régulièrement pour pas que ça fasse son travail dans notre cœur. Pareil pour la manière dont on parle, la légèreté que peuvent avoir nos paroles. L'esprit contraire, c'est d'être fiable, d'être intègre dans ce qu'on dit, que notre oui soit oui, qu'on ne promette pas des choses qu'on ne va pas pouvoir tenir, etc. etc. Donc ça aussi, ça peut être un combat dans nos pensées. Et on a besoin que l'esprit nous aide dans notre discernement et de nous fortifie aussi pour tenir notre position. C'est un positionnement qu'on prend. Et c'est un combat dans le cœur, parce que le cœur, c'est quelque chose qui est évidemment contesté par l'ennemi. S'il peut toucher notre cœur, ben, il peut aussi toucher nos actes, puisque notre trésor, hein, c'est notre cœur. De là viennent les sources de la vie. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Ça va dans les deux sens. Donc, l'élément déterminant ici, c'est le combat pour garder son cœur dans les principes du royaume. Cette fidélité, cette intégrité, presque un code de la chevalerie chrétienne. Ça me fait penser un peu à ça. C'est un peu comme un code de la chevalerie pour que, en tant qu'élite de Jésus, on sache comment tenir ferme. Et le focus, il est sur le cœur parce que c'est le siège de la pensée, c'est le siège des émotions et aussi, du coup, le siège de la volonté. Et si on a tout ça qui est aligné, il y a vraiment besoin de cet alignement, de cette obéissance aux principes que le Seigneur nous donne ici. Si tout ça est aligné, on sera beaucoup plus fort. On sera inébranlable. Et le Seigneur nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc là, c'est vraiment un travail d'obéissance, d'alignement avec la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre cœur en particulier. Et c'est ce combat spirituel donc pour garder la pureté qui nous est donnée par le Seigneur. Donc là, c'est vraiment bien résumé, hein. Je veux dire, je peux pas prendre chaque passage parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez relire ça à tête reposée et voir ce qui vous parle en particulier pour vous. Et on arrive à notre troisième partie, c'est-à-dire qu'on se rapproche du début, là, du verset 13. Alors, pour l'instant, on va arriver jusqu'au verset 16, et on finira avec les béatitudes. Donc, pour faire tout ça, bien sûr, il faut une intimité avec le Saint-Esprit, il faut écouter sa voix, il faut entendre ses instructions, il faut comprendre ce qu'il nous parle pour notre propre vie, et lui demander sa force, sa transformation à lui, parce que par nos propres forces, c'est pas possible. Parce que quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui est anticorruption. C'est ce qui enlève c'est ce qui peut désinfecter. Quand on met du sel sur une plaie, ça fait mal, mais ça permet de sauver les gens parfois, quand on n'a rien d'autre. Donc c'est un agent anticorruption. Et nous sommes cet agent anticorruption pour le monde. Et il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour qu'il y ait du goût, mais il faut que ce sel ne perde pas sa saveur. Il faut qu'il reste du sel. On a eu tout un enseignement sur sel et lumière au niveau de RNC. Et je refais pas toute l'analyse de ce que c'est le sel, qu'est-ce que c'est la lumière dans le monde. Parce qu'il y a un très bel enseignement de Jean-Hubert Mazel sur le sujet que vous pouvez écouter qu'on vous a envoyé, je pense, suite au week-end à Luxe, à la porte ouverte de Chalon. Et en fait, il a donné toutes les caractéristiques du sel et de la lumière. Et c'était beau. Et ça nous encourage, en fait, à chercher ce que le Saint-Esprit peut produire en nous pour continuer à garder cette saveur qu'il nous a donné, et pour continuer à briller. Et les bonnes œuvres, donc dont on parle au chapitre au verset 16, pardon, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pas des œuvres mortes, c'est pas des œuvres produites par nous-mêmes, par notre chair, c'est des œuvres du Saint-Esprit, de l'Esprit en nous. Et c'est ça qu'on doit voir à l'extérieur. C'est ce que le Saint-Esprit a transformé en nous, que ça doit briller à l'extérieur pour que les autres puissent être attirés à cette lumière et se disent « Ah, moi aussi je veux être transformé comme ça. Moi aussi je veux vivre cette lumière qui vient de l'intérieur, qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. » Et cette transformation, elle se fait bien sûr dans le temps, mais elle ne se fait pas par notre propre force. Elle se fait justement quand on abandonne. Quand on laisse Dieu faire. Et comme ça, on peut être donc touché, conduit, transformé. Donc c'est son œuvre en nous qui doit être vue. C'est son œuvre en nous qui doit être mise sur la montagne, en fait, pour éclairer. Parce que c'est cette action-là de transformation qui est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que c'est possible. On n'est pas obligé d'être esclave du péché ou esclave de la mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le résultat, donc, c'est le bonheur. On peut reprendre les béatitudes. Et j'ai trouvé que... Alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Que les béatitudes, en fait, ça correspondait à Ésaïe 61. Parce que heureux les pauvres en esprit, heureux en fait ceux qui sont malheureux. Et dans Ésaïe 61, vous avez justement « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ça correspond à « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. » Ensuite, vous avez toute la suite de « Heureux... » toutes les béatitudes, en fait, hein. On peut relire rapidement. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. On est encore dans ce message de justice, car ils seront rassasiés de la vraie justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là, on est bien dans la compassion, hein, l'amour. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Gardez son cœur pur. Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc là, on a un mode d'emploi pour être disciple prophète. Et qu'est-ce qu'on prophétise ? On prophétise que le royaume qui n'est pas de ce monde, il est proche maintenant, il est là, il est présent. On annonce un royaume qui n'est pas de ce monde, qui ne fonctionne pas selon les principes de ce monde, qui ne peut pas être compris par ce monde si Dieu ne le touche pas. Que cette justice, elle va au-delà de la justice humaine. Et qu'elle est bien plus profonde, bien plus rédemptrice en fait. Elle n'annule pas, mais elle est beaucoup plus efficace. Elle est rédemptive, elle a une action de rédemption. Et ça, c'est la bonne nouvelle dont parle Ésaïe 61. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'être transformé, c'est possible d'être changé, c'est possible d'être complètement renouvelé. Et nous, on doit pouvoir le vivre pour le montrer. On est des preuves que c'est possible. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Vous voyez que c'est vraiment dans le même thème. Hein. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. peut continuer jusqu'à la fin d'Ésaïe 61, c'est toujours le même thème. Je me réjouirai en l'Éternel, verset 10. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est pour le monde. Et ce thème de la fiancée et du fiancé, des époux, en fait, ça me parle aussi beaucoup parce que j'avais vu un jour l'image de cette église qui commençait à sortir de l'eau et ça commençait à venir. Et à un autre moment, j'ai vu la suite de cette vision, que l'église, elle sortait de l'eau et que le Seigneur, il l'avait main dans la main, il était avec elle main dans la main. C'est l'église de France, hein, l'église avec un grand E. Elle était côte à côte avec Jésus et ils avaient une relation tellement proche. Jésus donnait son autorité à son église et elle pouvait faire la même chose que lui parce que elle était comme lui. On sait dans la relation d'un couple, il y a une unité. Et je voyais ça pour l'Église, et c'était vraiment fort, et elle avait la même capacité, la même autorité que Jésus, parce qu'elle était un avec lui. Il y avait une unité qui était profonde, elle faisait ce que lui faisait. Et c'est juste, on est juste appelé à ça, quoi. Il partage tout avec son Église, comme un mari partage tout avec sa femme. Et comme je disais tout à l'heure, cette grande puissance, elle vient en fait de cette grande dépendance. Et je pense que c'est vraiment cet au-delà. On peut encore dépendre plus de Dieu, on peut encore lui donner plus, on peut encore lui demander plus pour qu'il y ait encore plus, justement, d'autorité et de puissance. Et donc, on va finir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va déverser son esprit sur toute chair. On le voit dans Joël 2, 28 et dans Acte 2, 17 qui cite Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et du coup, l'Église, elle a cette responsabilité de montrer qui est Christ, de montrer qui est l'époux. Et c'est comme si, d'une certaine manière, elle pouvait adopter, comme ses propres enfants, les autres enfants qui vont arriver, pour montrer le Père, qui est le Père, être de vrais fils, de vraies filles du Père, pour montrer ce que c'est, cet esprit d'adoption et cette ressemblance au Père, Père céleste, le Père dans le ciel, qui nous permet justement cette transformation, cette rédemption. Et le but, d'une certaine manière, c'est, j'ai l'impression, hein, comme si le Seigneur il nous demandait d'être prêt à adopter, d'être prêt à accueillir, d'être prêt à accompagner, à faire 1 ou 2 000 ou 3 ou 4 000 avec ceux qui vont nous forcer peut-être, et ce ne sera peut-être pas agréable, mais ensuite de leur apprendre comment marcher. Et pas forcément de marcher à leur pas, mais qu'on peut commencer. Ça commence forcément par là, mais ensuite de leur montrer comment marcher. Et on se sent tout petit et on se dit on va pas y arriver. Je suis la première à dire que je vais pas y arriver. Mais par l'Esprit de Dieu, on peut le faire. Parce que même si on lui donne juste un tout petit peu, lui, il peut nous donner au-delà. On est toujours dans l'au-delà. Et il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et je pense que c'est ce qui nous attend pour cette année. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. On n'a pas trop d'idées. Mais on se met à son école, on se met à son écoute, on se met à sa suite. Et c'est son œuvre en nous qui doit être vue. C'est son œuvre en nous qui attire, qui est cet agent anticorruption. C'est son esprit. Donc quand on dit qu'il croisse et que je diminue, c'est pas de l'auto-dépréciation, c'est pas de l'auto-flagellation, mais c'est vraiment ça, c'est pour que ça se voit encore plus. Pour que il soit encore plus puissant en moi et que moi je vienne pas contrecarrer son travail, que je vienne pas restreindre en fait ce que lui il veut élargir. Parce que son esprit est fort en moi, je puis tout par celui qui me fortifie, vous le savez. Vous savez aussi que sa joie, c'est notre force. Et qu'on peut dégommer toutes les mauvaises images, toutes les mauvaises, tous les mensonges qu'on a hérités d'une mauvaise compréhension de qui est l'Église, hein, en fait, hein, pour mettre en place ce que lui dit sur qui on est et sur ce qu'on est appelé à faire.